Tchelkash, suite. À l'annonce faite par Tchelkash, la douane, Gavrilo eut un sursaut. Une idée surgit en lui, lancinante, ardente, qui crispa ses nerfs surexcités. Il voulut hurler, appeler au secours. Déjà il ouvrait la bouche, mais soudain, une frayeur le cingla comme un coup de fouet. Il ferma les yeux, et terrassé, il tomba de son banc. En avant de la barque, à l'horizon lointain, une gigantesque épée d'un bleu étincelant avait surgi des flots ténébreux. Elle s'éleva, trouant l'ombre nocturne. La lame flamboyante frôla les nuages et vint tracer un large sillon bleuâtre à la surface de la mer. Des vaisseaux, demeurés jusqu'alors invisibles et noirs dans l'épaisse obscurité ambiante, surgirent tout d'un coup des ténèbres dans le reflet de feu. On eût dit que c'étaient des navires engloutis depuis longtemps sous les flots à la suite d'une terrible tempête et qui revenaient à la crête des lames, appelés des bas-fonds par l'épée ardente enfantée par la mer. Ils semblaient s'élever pour contempler à nouveau la surface de l'eau et la splendeur du ciel. Les vergues et les cordages, embarrassant les mâts, donnait l'impression d'herbes marines, enlaçant ces géants disparus et surgissant avec eux des flots profonds. Puis, l'effrayante lame de feu s'éleva à nouveau, troua la nuit, et vint se poser sur un autre point de la mer. Et là aussi, des fantômes de navires, invisibles l'instant précédent, parurent surgir de l'abîme. La barque de Tchelkash s'immobilisa et se balança au gré de la houle. On eût dit qu'elle hésitait. Couché au fond de l'esquif, Gavrilo se cachait le visage dans les mains. Tchelkash le poussa du bout de l'aviron, grondant avec rage, mais d'une voix étouffée. « C'est le croiseur de la douane, idiot! C'est le phare électrique! Veux-tu te lever, crétin? Ils vont diriger la lumière sur nous! Tu nous feras découvrir, toi et moi, maudit démon !» Il cingla d'un coup plus fort de l'aviron les reins de Gavrilo qui se mit debout et, sans oser encore ouvrir les yeux, s'assit à son banc, prit les rames à tâtons et remit la barque en marche.
« Doucement, ou je te crève! Doucement, idiot! Que le diable t'emporte! Sais-tu ce qui t'a terrifié ainsi, hein? Une lanterne et une glace, un point c'est tout. Plus légèrement avec tes avirons, eh, sacré diable! Au moyen d'une glace qu'on incline à volonté, on illumine la mer pour y découvrir les promeneurs de notre genre. On fait la guerre à la fraude. Nous voici hors de danger, ils sont déjà loin. Ne crains rien, frérot, nous sommes sauvés. Désormais, nous... »
Tchelkash jeta autour de lui un regard de triomphe.
« Assurément, nous sommes sauvés. Tu es vénard, planche pourrie. »
Gavrilo ramait sans répondre. Sa respiration était oppressée. D'un regard oblique, il fixait l'horizon où l'épée flamboyante continuait à s'élever et à s'abaisser sur la mer, se refusant à croire, à part lui, qu'il n'y avait là, comme le prétendait Tchelkash, qu'une lampe à réflecteur. Le jet de lumière bleuâtre qui trouait l'ombre jetait sur les flots des éclairs d'argent. C'était pour lui un phénomène incompréhensible, et Gavrilo sentit à nouveau s'abattre sur son cerveau l'obsession d'une terreur mélancolique. Son cœur était serré comme par le pressentiment d'un drame. Son coup de rame était automatique. Lui-même, se sentant épuisé, sans désir et sans âme, courbait le dos en prévision d'un choc qui allait venir d'en haut. Toute son énergie humaine s'enfuyait en déroute devant les émotions de cette nuit. Cependant, le triomphe de Tchelkash était éclatant, et le succès de son entreprise aussi complet que possible. Ses nerfs, accoutumés à ses aventures, étaient déjà calmés. Un frisson de joie retroussait sa moustache, un éclair de satisfaction illuminait son regard. Il éprouvait un bien-être parfait, sifflotait, respirait à plein poumon l'humidité de l'air marin, et quand ses yeux revenaient à Gavrilo, il souriait d'un sourire plein de cordialité. Le vent qui se levait tira la mer de son sommeil. Des milliers de petites vagues commencèrent à clapoter les unes contre les autres. Les nuages qui couvraient encore tout le ciel se firent moins épais et moins opaques. Un zéphyr léger courait au ras des flots, cependant que là-haut, la voûte grise des nuées, toujours immobile, semblait couvrir une songerie mélancolique.
« Frère, allons donc, reprends connaissance de toi-même, c'est l'heure. On dirait ma parole qu'on t'a secoué l'âme pour la détacher de ta peau. Tu n'es plus qu'un sac empli d'os. Eh, bon ami, nous tenons la bonne affaire. »
Entendre une voix humaine, fut celle de Tchelkash, apporta un peu de confiance à Gavrilo.
« J'entends, » dit-il à voix basse.
« Ça va bien, Patmol. Viens t'asseoir au gouvernail, je ramerai. Tu es fatigué, hein ?»
Machinalement, Gavrilo changea de place. Tchelkash vit qu'il fléchissait sur les jambes. Il en eut un surcroît de pitié et lui tapota l'épaule.
« Ne crains rien. Tu auras un gain sérieux. Je te payerai largement, petit frère. Veux-tu 25 roubles? Réponds-moi. »
« Je n'ai besoin de rien, sinon de toucher terre. »
Tchelkash eut un geste vague du bras. Il cracha et prit les rames, qu'il lança très loin derrière lui. La mer se réveillait. Elle donnait naissance à des lames minuscules. Les parets d'une crête d'écume les faisaient se heurter entre elles et les brisaient en une gerbe d'embrun. L'écume, en se dissolvant, pétillait, et l'air était empli d'un murmure doux comme une harmonie et d'un clapotement léger. L'ombre semblait reprendre vie.
« Allons, dis-moi un peu, » commença Tchelkash. « Tu vas rentrer dans ton village, tu te marieras, tu te mettras à labourer, à faire tes semences, ta femme te gratifiera de nombreux enfants, vous n'aurez pas toujours assez de pain et tu t'esquinteras toute ton existence. Dis-moi donc, « cela te paraît bien réjouissant ?»«
Quelle joie pourrait-il y avoir dans une telle vie ?» répondit Gavrilo, hésitant et encore tout ému.
« Mais que faire ?»
Le vent ayant réussi à déchiqueter par endroits le manteau des nuages, on voyait, à travers ces déchirures, le ciel bleu où brillaient quelques étoiles qui se reflétaient dans la mer agitée, tantôt à la cime des lames, tantôt disparaissant pour luire à nouveau un instant après.
« Appuie à gauche !» commanda Tchelkash. « Nous allons être arrivés.
Oui, ça y est, voilà du bon travail. En une nuit, 500 roubles de gagné. Hein? Qu'en dis-tu? Cela en vaut-il la peine ?»«
500 roubles ?»
répéta Gavrilo méfiant. Mais la frayeur reprit le dessus, et poussant du pied les ballots qui gisaient dans le fond de la barque, il demanda
« Qu'est-ce que c'est que cela ?»«
De la soie, une denrée précieuse. Si on la vendait ce qu'elle vaut réellement, on en tirerait 1000 roubles. Mais je ne cherche pas à vendre cher. Ça n'est pas bête, hein, tout cela ?»«
Est-ce possible ?» soupira Gavrilo.
« Ah, que n'en ai-je autant !» Il eut un souvenir mélancolique pour son village, pour sa vie lamentable, pour ses soucis, pour sa mère, pour toutes ces choses éloignées et chères, en vue desquelles il s'était exilé afin de trouver du travail, et pour lesquelles il venait d'endurer une nuit de si affreuses souffrances. Le flot du passé inonda sa mémoire. Son visage lui apparut sur les flancs d'un coteau, au pied duquel coulait une rivière, derrière un rideau de bouleaux, de saules, de sorbiers et de merisiers. Cette évocation lui apporta un peu de courage et de réconfort.
« Ah, Dieu, ce serait-il beau !»
gémit-il tristement.
« Oui, je te vois d'ici, courir en hâte vers ton train, et puis bonsoir la compagnie.
Ce que tu serais adoré des filles au village, tu n'aurais que l'embarras du choix. Tu te construirais une belle isba toute neuve, mais cela ne serait peut-être pas suffisant pour une isba. »
« Oh, sûrement non, une isba. Le bois coûte trop cher chez nous. »
Bah, tant pis, tu réparerais celle que tu possèdes. As-tu un cheval ? »
Un cheval ? Oui, il y en a un. Mais bon Dieu, qu'il est vieux.
En ce cas, un cheval. Un fort cheval. Des vaches, des moutons, des poules. Qu'en dis-tu ?
Pourquoi me racontes-tu tout cela ? Ah, si. Ah, par Dieu, j'aurais bien vécu.
Sans doute, frère, ton existence ainsi n'aurait pas été désagréable. C'est que moi aussi, je connais un peu tout cela. Moi aussi, j'ai eu un chez-moi. Mon père était un des paysans les plus fortunés du village.
Tchelkash ramait avec nonchalance. La barque sautait sur les vagues qui caressaient ses flancs. Elle avançait à peine. La mer, encore plongée dans l'ombre, s'agitait davantage et balançait les deux hommes, qui, les yeux perdus dans un rêve, regardaient distraitement autour d'eux. Tchelkash n'avait d'abord parlé à Gavrilo de son village que pour le rassurer un peu et le faire revenir de son émotion. Et tout en discourant, un sourire sceptique errait sous sa moustache. Mais à lui donner ainsi la réplique, à évoquer le souvenir des joies rustiques dont il était lui-même privé depuis si longtemps, des joies rustiques qu'il croyait oubliées à jamais, il se prit à son propre piège, et voici qu'au lieu de faire causer le paysan, il commença, presque à son insu, à traduire ses propres sentiments. « Vois-tu, frère, la grande chose dans l'existence du paysan, c'est la liberté. Sois ton seul maître. Que la maison que tu possèdes, ne valût-elle pas cher, n'appartienne qu'à toi. Tu as une terre, ce n'est qu'une poignée de sol, mais du moins elle y tienne. Ta poule, tes œufs, ta pomme sont à toi. Tu es un roi sur la terre. Autre chose encore, sois ordonné. Levé dès l'aube, mets-toi à l'ouvrage. Le printemps te convie à un travail, l'été nécessite une autre besogne, l'automne, l'hiver, d'autres encore. Où que tu aies couru dans la journée, ta maison t'offre asile, tu y trouves le bien-être et le repos. Dis-moi, n'es-tu pas un roi ? Ainsi Tchelkash énumérait, plein de lyrisme, les joies et les avantages du paysan, oubliant toutefois de faire mention de ses devoirs. Gavrilo l'écoutait, étonné et non moins enthousiaste. Il avait suffi de cette conversation pour qu'il perdît le souvenir de ce qu'était son interlocuteur. Il ne voyait plus en lui qu'un paysan comme lui-même, un paysan attaché à la glèbe par les travaux qu'elle réclame, par l'atavisme de plusieurs générations, par des réminiscences de jeunesse, un paysan qui, ayant volontairement quitté la terre et fui les soucis qu'elle donne, regrettait maintenant son équipée et en subissait le châtiment. Oui, frère, c'est vrai. Ah, comme tu dis vrai. Prends-toi pour exemple. Tu as déserté la terre. Qu'es-tu à cette heure, frère? La terre est semblable à une mer. On ne saurait l'oublier longtemps. Du coup, Tchelkash se retrouva tout entier. Il sentit à la poitrine cette morsure irritante que produisait chez lui chaque atteinte à son amour-propre d'aventurier sans souci et sans scrupule. Et l'offense lui parut d'autant plus froissante qu'il tenait l'offenseur pour sans valeur. « Le voilà qui divague, » trancha-t-il brutalement. « Penses-tu que je parle sincèrement? Je vaux plus cher que cela, crois-moi. » La timidité de Gavrilo reparut. « Mais quel type tu fais ? » reprit-il en hésitant. « Ce n'est pas de toi que je parle, bien sûr. Il y en a tellement dans ton cas. Hélas, qu'il y en a sur terre des malheureux, des va-nu-pieds. Reprends les rames, et vos marins !» ordonna Tchelkash d'une voix incisive. Il se contint pour ne pas proférer les imprécations qui lui montaient à la gorge. Ils changèrent à nouveau de place. Tchelkash enjamba les ballots pour venir s'asseoir au gouvernail. Il eut une envie folle d'allonger à Gavrilo une poussée solide qui le fit basculer par-dessus bord, et en même temps, il n'eut pas le courage de le regarder en face. Les deux hommes ne se parlaient plus, mais dans ce silence même, Tchelkash trouvait comme un parfum du village. Il évoquait le passé et ne songeait plus à diriger la barque, qui, sous la pression des lames, avait viré de bord et voguait maintenant sur la pleine mer. On eût dit que les vagues, comprenant que ce bateau s'en allait au hasard, s'amusaient à le faire sauter légèrement, tout en s'illuminant d'éclairs bleus au contact des rames. Devant les yeux de Tchelkash,
C'était le défilé rapide de toutes les images d'autrefois, d'un autrefois déjà vieux, et dont le séparait, ainsi qu'un mur, 11 années de vie irrégulière. Il se revit petit enfant, il revit le hameau natal et sa mère, grasse paysanne aux joues rouges, aux yeux gris pleins de bonté, et son père, un colosse à la barbe fauve, à la mine grave. Il se revit fiancé, il évoqua le souvenir de sa femme, Anfissa, ses yeux noirs, ses longs cheveux, sa femme si grassouillette, si fraîche, si gaie. Puis le voici, fier soldat de la garde. À nouveau, il se souvint de son père, aux tempes grisonnantes, voûté par la fatigue, de sa mère toute ridée, cassée en deux et qui marchait en regardant la terre. Ah, cette fête au village quand il revint du service! Le père était-il assez orgueilleux de son Grishka aux moustaches de chat, soldat robuste, coqueluche de toutes les femmes du hameau? Le souvenir, ce torsionnaire des malheureux, rend la vie aux choses inertes elles-mêmes et mêle des gouttes de miel au poison jadis absorbé, afin que l'homme qui se souvient n'ait plus que la mémoire de ses fautes et, cessant de nourrir toute espérance en l'avenir, se désole dans l'amour exclusif et stérile du passé. Tchelkash se sentait apaisé, comme par un souffle pur de l'atmosphère qu'il avait vu naître, un souffle qui lui redisait les tendresses maternelles, les sages conseils du père, ce villageois rigide, un souffle qui lui remettait en mémoire des bruits oubliés, tous les parfums exquis de la terre quand la neige fond au printemps, les saines odeurs qui s'exhalent des sillons fraîchement labourés ou des champs que le blé vert couvre d'un tapis soyeux couleur d'émeraude. Et soudain, il se sentit dévoyé, déchu, lamentable et seul, sans famille et banni à jamais du milieu auquel il devait le sang qui coulait dans ses veines. « Hé là, où allons-nous donc ?» interrogea Gavrilo. Tchelkash sursauta et se retourna avec le regard d'un fauve traqué. « Diable ! Bah, ce ne sera rien, rame plus dur, nous arrivons. » « Tu rêvais ?» demanda Gavrilo en souriant. Tchelkash fixa sur lui des yeux scrutateurs. Le paysan avait reconquis tout son calme. Il était sans inquiétude, joyeux et presque fier. Il était jeune et avait toute la vie devant lui. Mauvais indice. Peut-être, toutefois, la terre pourrait-elle le garder de lui-même. À cette idée, Tchelkash sentit redoubler sa tristesse et répondit avec humeur à Gavrilo. « Je suis là, et ça saute beaucoup. »« Ça saute, c'est certain. Alors, maintenant, nous ne risquons plus de nous faire pincer avec ceci ?» Et il donna du pied dans les ballots. « Non, sois sans crainte, je vais le livrer sur le champ et toucher l'argent. »« 500 roubles ?»« Sans doute, au moins. »« C'est une fortune. Pauvre diable que je suis, si je l'avais, j'en chanterais une chanson. » »« À ton village ?»« Pour sûr, et sans tarder. » Gavrilo laissa libre cours à ses rêves. Tchelkash était visiblement abattu, ses moustaches étaient défrisées, il avait le côté droit tout trempé par les embruns des lames. Ses yeux étaient enfoncés sous l'orbite et sans éclat. Il paraissait lamentable et alourdi. Rien ne subsistait en lui de l'oiseau de proie. Il n'était plus qu'un pauvre homme à la blouse souillée, perdu dans une rêverie découragée. « Je suis bien là, éreinté, » dit-il. Il reprit « Nous y sommes, voilà. » D'un mouvement brusque, il fit virer la barque et la dirigea vers une masse noire qui émergeait de l'eau. Le ciel était toujours uniformément nuageux et la pluie se mit à tomber, fine et serrée, crépitant avec un bruit clair sur la crête des lames. « Arrête ! Doucement !» commanda Tchelkash. L'avant de la barque vint en contact avec les flancs d'un navire. À l'aide d'une gaffe, le vagabond s'empara des cordages qui pendaient par-dessus bord. « Dorment-ils bien, ces diables-là » gronda Tchelkash.
L'échelle n'est pas abaissée, et par surcroît voici la pluie, comme s'il n'aurait pas pu pleuvoir plus tôt. Ohé, tas de mollusques! Ohé!
C'est toi, Tchelkash?
Demanda d'en haut une voix dans un murmure à peine perceptible.
Allons, envoie l'échelle!
Bonjour, Tchelkash!
Envoie l'échelle, diable enfumé!
Grogna Tchelkash. Oh, mais il est de mauvaise humeur aujourd'hui! Eh oh!
Monte, Gavrilo! Demanda Tchelkash.
Une minute plus tard, ils étaient sur le pont. Trois étranges individus à longue barbe y discutaient dans un dialecte extraordinaire et rugueux. Ils se penchèrent par-dessus les bastingages pour voir la barque de Tchelkash. Un quatrième personnage, drapé dans une robe traînante, vint vers celui-ci, lui serra la main sans mot dire et jeta un regard méfiant dans la direction de Gavrilo.
« Tiens l'argent à ma disposition jusqu'à demain matin, » dit Tchelkash d'une voix brève.
« Pour l'instant, je veux dormir. Viens, Gavrilo. Est-ce que tu as faim ?»«
Non, » répondit Gavrilo, « mais j'ai sommeil. »
5 minutes ne s'étaient pas écoulées qu'il ronflait, étendu sur le pont mal lavé du bateau. À ses côtés, Tchelkash, assis par terre, essayait une botte qu'il avait trouvée traînant à l'aventure. Partagé entre la colère et la tristesse, il sifflotait et crachait. Enfin, il s'allongea sur le pont, côte à côte avec Gavrilo, en négligeant d'ôter la botte de son pied. Il croisa les mains sous sa nuque et s'absorba dans un examen minutieux du pont, tout en remuant ses lèvres moustachues. Le navire se balançait au gré de la houle légère, un grincement de bois se faisait entendre, tristement, venant on ne savait d'où. Les gouttes de pluie tombaient avec un bruit mat sur le pont. Les vagues déferlaient contre les flancs du bateau. Une mélancolie générale flottait dans l'air, avec une plainte qui semblait une berceuse, chantée par une mère qui désespérerait du bonheur de son enfant. Tchelkash, la bouche entr'ouverte, leva la tête, jeta un dernier regard autour de lui, puis, ayant murmuré quelques mots, s'étendit à nouveau. Ainsi couché, les jambes écartées, il ressemblait à une paire de ciseaux gigantesques. Chapitre 4. Réveillé le premier, il eut un sursaut d'inquiétude, vite apaisé. Il contempla Gavrilo qui continuait à dormir. Le paysan ronflait. Un sourire illuminait sa figure hâlée d'enfant de la campagne. Tchelkash soupira, puis se hissa le long d'une échelle de corde. Par le panneau entr'ouvert, on apercevait un coin du ciel gris. Le jour était venu, mais il faisait un temps d'automne triste et morne. Tchelkash resta absent 2 heures. Quand il revint, il avait la face colorée et la moustache fièrement retroussée. Il souriait d'un sourire joyeux et plein de bonhomie. Il portait une paire de bottes hautes et solides, une jaquette et une culotte de cuir. Ainsi vêtu, il avait l'aspect d'un chasseur. Son costume était un peu fatigué, mais encore en bon état. Il dissimulait la maigreur de son propriétaire et lui donnait une silhouette fort crâne.
« Hola, jeune veau, debout »
cria-t-il en poussant du pied Gavrilo. Celui-ci se réveilla en sursaut. Il ne reconnut pas d'abord son maître et le contempla d'un air ahuri qui fit rire Tchelkash.
« Comme te voilà bien nippé !»
s'écria enfin le paysan en souriant largement. « On dirait un grand seigneur !»«
Ça ne traîne pas avec moi !»« Ah, poltron, dis-moi, combien de fois cette nuit as-tu cru ta dernière heure arriver ?»«
C'est que, vois-tu, c'est la première fois que je prenais part à une aventure de ce genre. On peut y perdre son âme à jamais !»
« Recommencerais-tu une autre fois ?»«
Recommencer ? Il faudrait savoir quel serait mon bénéfice. Tout est là. »«
200 roubles. »«
200 ?
Oui, pour les 200, j'irai. »«
Eh bien, et ton âme ?»«
Bah, » répondit Gavrilo en souriant, « je ne la perdrai peut-être pas, et cela me permettrait d'être vraiment un homme pour le restant de ma vie. »
Tchelkash se mit à rire.
« Ça va bien. Trêve de plaisanterie.
Nous allons revenir à la plage. Prépare-toi. »
Mais je suis tout prêt.
Ils redescendirent dans la barque. Tchelkash prit le gouvernail et Gavrilo les rames. Les nuages gris couvraient tout le ciel. La mer, glauque et trouble, jouait avec leur esquif. Ils rebondissaient à la crête des petites vagues qui les arrosaient de gouttes d'embrun salé. À l'horizon lointain, vers lequel était orienté l'avant de la barque, apparaissait la plage, traçant une ligne jaune et sablonneuse. Derrière eux s'étendait toute la mer agitée, où les vagues en troupeaux se pressaient, couronnées d'écume. À droite, des vaisseaux se balançaient au gré des flots, et à gauche, à travers la forêt des mâts, on apercevait la masse blanche des maisons de la ville. De là venait une clameur confuse, qui semblait apportée par les vagues, et qui se mêlait à l'harmonie grandiose et puissante de la mer. Sur tout cela flottait un brouillard léger comme un voile, qui semblait isoler et emprisonner chaque objet. « Oh, ça va danser fortement ce soir !» dit Tchelkash en désignant le large d'un mouvement de tête.
« Une tempête ?» interrogea Gavrilo tout en ramant vigoureusement.
Les embruns poussés par le vent le trempaient de la tête aux pieds.
« Oui, da !» affirma Tchelkash.
Cependant, Gavrilo l'examinait avec intérêt, et voyant qu'il ne se décidait pas à parler, il lui demanda enfin.
« Combien t'a-t-on donné ?»«
Regarde !» répondit l'autre. Et il présenta à Gavrilo quelque chose qu'il sortit de sa poche. Le gars aperçut des billets de diverses couleurs et crut avoir devant les yeux un véritable arc-en-ciel.
« Ah, je croyais bien que tu te vantais.
Combien ?»« 540. Est-ce bien mené ?»«
Certainement !»
murmura Gavrilo. Il suivit d'un regard envieux les 540 roubles que Tchelkash remettait dans sa poche. Puis il ajouta avec un soupir navré.
« Ah, si c'était à moi !»«
Nous allons faire la noce, petit frère !»
s'exclama Grishka enthousiaste.
« Ne te fais pas de bile, je te paierai. Je te donnerai 40 roubles. Dis-moi, es-tu content ? Veux-tu ton argent tout de suite ?»«
Ma foi, si tu n'y vois pas d'inconvénient, je veux bien. »
Il tremblait d'anxiété. Un désir ardent le mordait au cœur.
« Pantin du diable, tu veux bien, tu consens. Tiens, frère, je t'en prie, je t'en conjure, accepte. Je ne sais pas vraiment où mettre tout cet argent. Débarrasse-moi, tiens. »
Tchelkash tendit à Gavrilo quelques billets de 10 roubles. Le paysan s'en empara d'une main que l'émotion faisait trembler. Il posa les rames et enfouit son trésor sous sa blouse. Il clignait des yeux et respirait bruyamment comme s'il buvait quelque chose de chaud. Tchelkash, ironique, le toisait du regard. L'autre reprit les avirons, il les maniait nerveusement et par saccades, les yeux baissés, comme pris de peur. Un frémissement agitait ses oreilles et ses épaules.
« Bon Dieu, que tu es cupide ! Ah, que c'est vil ! Cela n'est pas étonnant, d'ailleurs, chez un paysan. »
Ah, quel pouvoir nous donne l'argent ! S'écria Gavrilo, subitement enthousiaste et vibrant de passion. Il se mit à monologuer, en paroles hachées, rapides, suivant son idée fixe, et discourant sans suite sur la différence de la vie du paysan pauvre ou fortuné. Il exaltait la notoriété, l'aisance, la liberté, la joie. Tchelkash lui prêtait une attention soutenue, l'air grave et les yeux emplis de pensées secrètes. Par instant, un sourire heureux passait sur ses lèvres.
« Nous sommes arrivés, » dit-il soudain.
Une vague souleva la barque et la lança sur le sable, à souhait.
« Fini, terminé, tout à fait fini. Il ne reste plus qu'à tirer le bateau plus haut pour que la mer ne l'emporte pas. On viendra le chercher. Maintenant, frère, adieu. La ville est à 8 verstes, car tu retournes à la ville, n'est-ce pas ?»
Et Tchelkash continuait à sourire d'un air narquois et bienveillant. On sentait qu'il méditait un acte agréable pour lui et auquel ne s'attendait pas Gavrilo. La main dans sa poche, il y froissait avec bruit le papier soyeux des billets de banque. « Non, je ne veux pas y aller. Je veux... » On eût dit que Gavrilo étranglait ou étouffait. Un ouragan de désirs, de paroles et de sensations s'agitait en lui, entrechoquant leurs impressions. Une fièvre ardente le brûlait. Tchelkash le considérait stupéfait.
« Qu'est-ce qui te prend ? » dit-il.
« Rien, ce n'est rien. » Mais des alternatives de rougeur et de pâleur se manifestaient sur son visage. Il piétinait la terre et trépignait, comme tenaillé par l'envie de se jeter sur Tchelkash ou comme torturé par un désir irréalisable. Sa nervosité suscita un malaise chez Tchelkash, qui se demandait de quelle manière allait se terminer cette crise. Gavrilo se mit à rire étrangement, d'un rire qui ressemblait à un sanglot. Il baissait la tête, si bien que Grishka ne pouvait voir son visage et n'apercevait que ses oreilles qui rougissaient et pâlissaient tour à tour.
« Ah, que le diable t'emporte !»
s'écria Tchelkash avec un geste de la main. « Es-tu amoureux de moi à cette heure, hein ? Il fait des grimaces comme une fille. Tu es si désolé de te séparer de moi ? Hé, jeune drôle, parle, ou bien je m'en vais. »
« Tu t'en vas ?»
hurla Gavrilo avec un cri strident. La plage, désert de sable, et les dunes amoncelées par les flots parurent frémir à ce cri. Tchelkash lui-même frissonna. Soudain, Gavrilo bondit. Il se précipita aux pieds de Tchelkash, lui enlaça les jambes de ses deux bras et l'attira si violemment à lui que l'autre, perdant l'équilibre, s'abattit lourdement dans le sable. Grinçant des dents, il fit tournoyer dans l'air son poing fermé, mais avant même qu'il eût frappé, il laissa retomber son bras, devant le regard contrit et suppliant de Gavrilo. « Ami, dit celui-ci, fais-moi cadeau de cet argent. Au nom du Christ, fais-moi cadeau. Qu'en feras-tu ? C'est le produit d'une nuit, d'une seule nuit. Pour le gagner, il me faudrait des années. Donne-le-moi. » « Pour toi, pour le salut de ton âme, je ferai dire des prières dans trois églises. Tu vas le dissiper, moi je l'enfouirai dans la terre. Ah, fais-moi cadeau de cet argent dont tu ne feras rien. Tu n'y tiens pas tant que cela, toi qu'une autre nuit peut faire riche. Pour une fois, fais une bonne action. Tu es un homme perdu, toi. Jamais tu ne rentreras dans le bon chemin, tandis que moi... Ah, donne-moi cet argent. » Stupéfait, inquiet et furieux, Tchelkash, renversé en arrière, assis sur le sable et s'y arc-boutant des deux mains, Tchelkash gardait le silence et, les yeux démesurément ouverts, contemplait le jeune paysan qui se tordait à ses pieds, lui appuyait la tête sur ses genoux et répétait d'une voix entrecoupée ses supplications. Enfin, il le repoussa, se mit debout d'un bond et sortant de sa poche les billets bariolés, il les jeta à Gavrilo. « Tiens, chien, avale » s'écria-t-il. Il tremblait de colère, de haine et de pitié méprisante devant cette cupidité servile. Quand il lui eut jeté l'argent, il se sentit l'âme d'un héros. Un éclair d'audace brilla dans ses yeux. « J'avais moi-même l'intention de te rémunérer plus largement. Depuis hier, j'avais pitié de toi. » Je songeais au village et je m'étais dit « Je viendrai en aide à ce rustre. » Je n'attendais que pour voir ce que tu allais faire, si tu oserais ou non me demander quelque chose. Ah, mendiant, quel loque tu es ! Est-il possible de s'abaisser ainsi pour de l'argent, de se tourmenter de la sorte ? Tu es de la race de ces crétins, de ces avares diaboliques qui n'ont point de dignité et qui se vendraient pour 5 kopecks. Ah, oh, ami, que Dieu te soit en aide. Je suis riche maintenant. Je possède. Quoi, des milliers ? Je suis un homme fortuné aujourd'hui. » répétait Gavrilo tout vibrant d'enthousiasme en cachant les billets sous sa blouse. Ah, oh, cher ami, jamais je ne t'oublierai, jamais, et je ferai prier ma femme et mes enfants pour ton salut. Tchelkash écoutait ce débordement d'allégresse et contemplait cette face transformée par la fureur de l'avarice satisfaite. Il se réjouissait à l'idée que lui, le forban, le vagabond,
le banni, ne s'abaisserait jamais à un tel avilissement, à cet égarement, à cette rapacité. Il en appréciait mieux la conscience de sa libre audace, et le plaisir de cette constatation lui faisait prolonger son entretien avec Gavrilo sur cette plage déserte.
« Tu as assuré mon bonheur !» clamait le paysan en pressant contre ses lèvres la main de Tchelkash.
Celui-ci, toujours silencieux, souriait en montrant ses dents de loup. Et Gavrilo, en vaine d'épanchement, continuait.
« Si je te disais quelle idée m'a traversé l'esprit tout à l'heure, nous voguions vers la côte. Tu m'as montré l'argent, alors je me suis dit, si je lui envoyais, à toi, un bon coup de rame, le trésor serait à moi, le cadavre, je le jetterais à la mer. Le cadavre, c'était toi, tu comprends? Qui donc s'inquiéterait de ne plus te voir? Si l'on t'avait repêché, on n'eût pas fait d'enquête, ni cherché qui t'avait tué, et pourquoi? Es-tu un homme pour lequel on susciterait un scandale? Non, tu ne sers à rien sur la terre. Personne ne prendrait ton parti, n'est-ce pas vrai? Hein?
Crache l'argent! Hurla Tchelkash en étreignant Gavrilo à la gorge. Celui-ci se débattit une ou deux fois, mais de son autre bras, Tchelkash l'enlaça comme un serpent de fer. Il y eut un bruit de vêtements déchirés, et Gavrilo se retrouva à terre, les yeux fous, battant l'air de ses deux mains et ruant dans le vide. Debout devant lui, Tchelkash, très droit, nerveux comme un faune, découvrait les dents en un rictus terrible et riait d'un rire amer, furieux, qui faisait frémir sa moustache en travers de son visage d'oiseau de proie. Dans toute son existence, il n'avait point connu un choc au cœur si douloureux, et jamais il n'avait ressenti semblable colère.
« Eh bien, tu es heureux maintenant ?»
demanda-t-il à Gavrilo sans cesser de rire. Puis il lui tourna le dos et s'en alla vers la ville. Mais il avait à peine fait deux pas que Gavrilo, rampant derrière lui comme un chat, un genou en terre, ramassa un galet arrondi et, avec un large mouvement du bras, le lança en criant plein de rage « Ah !» Tchelkash poussa un cri de douleur, porta la main à sa nuque, faillit tomber en avant, se retourna face à Gavrilo et s'affaissa comme une masse, le visage dans le sable. Il remua la jambe, fit un effort pour soulever la tête et se raidit avec un gémissement comparable à celui d'une corde tendue. Alors Gavrilo s'enfuit au loin, courant vers un nuage déchiqueté qui projetait là-bas son ombre sur la steppe noyée dans le brouillard. Les vagues déferlaient sur le sable, se retiraient en l'entraînant, puis revenaient à nouveau. La pluie se mit à tomber, d'abord lente, puis bientôt serrée et compacte, comme des filets d'eau descendant du ciel. Ils formaient, en s'entrecroisant, un rideau qui déroba l'horizon de la mer. Longtemps on ne vit que la pluie, ruisselant sur ce grand corps inerte sur le sable, près des flots. Mais soudain, émergeant du brouillard, reparut Gavrilo, courant à toutes jambes. Il semblait voler comme un oiseau. Il s'approcha de Tchelkash, mit un genou en terre à son côté et entreprit de le retourner sur le sable. Sa main se mouilla de quelque chose de gluant, de chaud et de rouge. Il eut un frisson et recula, livide, affolé.
« Frère, relève-toi »
murmurait-il à l'oreille de Tchelkash dans le crépitement de la pluie. L'autre reprit connaissance et repoussa Gavrilo d'une voix sourde.
« Va-t'en !»
« Pardonne-moi, frère, c'est le démon qui m'a tenté !»
balbutiait Gavrilo, tout tremblant et baisant la main de sa victime.
« Va-t'en ! Va-t'en !
Pardonne-moi mon crime, ami ! Pardonne-moi »
Tchelkash fit un effort et s'assit sur le sable. Sa pâleur lui faisait un visage terrible. Il fermait les yeux comme s'il avait encore très sommeil.
« Va-t'en ! Va-t'en au diable » gronda-t-il. « Que me veux-tu maintenant? Tu as fait ton coup. Va-t'en, file !»
Il tenta vainement de repousser du pied Gavrilo, désespéré et anéanti, mais il faillit tomber, et le jeune paysan dut le soutenir par les épaules. Les visages des deux hommes se rapprochèrent dans ce mouvement. Ils étaient l'un et l'autre livides, lamentables et effrayants.
« Pouah !»
Tchelkash cracha droit dans les yeux ouverts de son second de la nuit. Sans protester, humblement, l'autre s'essuya au revers de sa manche et sanglota.
« Fais ce que tu voudras, je ne dirai pas un mot, mais pardonne-moi au nom du Christ !»«
Idiot qui n'est même pas capable de voler !»
cria Tchelkash méprisant. Sous sa veste, il déchira sa chemise, et sans rien ajouter, se contentant de grincer des dents, il commença à bander sa tête. « Tu as pris l'argent ? » demanda-t-il enfin.
« Non, frère, je n'y ai pas touché, je n'en veux plus, il porte malheur. »
De la poche de sa veste, Tchelkash retira la liasse de billets de banque. Il en détacha un qu'il conserva et jeta le reste devant Gavrilo.
« Ramasse, étire-toi d'ici !»«
Je ne puis y toucher, je ne puis, pardonne-moi !»«
Ramasse, te dis-je »
hurla Tchelkash en roulant des yeux terribles.
« Pardonne-moi d'abord, je le prendrai ensuite !»
murmura Gavrilo hésitant. Il se laissa tomber aux pieds de Tchelkash sur le sable mouillé où la pluie crépitait.
« Tu mens, imbécile ! Tu vas le prendre à l'instant !»
affirma Tchelkash avec autorité. Il le saisit par les cheveux, lui releva la tête avec peine et lui plaqua les billets contre la figure.
« Prends ! Prends ! Tu n'as pas travaillé pour rien, sans doute ! Ne rougis pas d'avoir tenté d'assassiner un homme. Est-ce que l'on se préoccupe des gens comme moi ? On te félicitera plutôt quand on saura ton courage. Prends, tiens, nul ne connaîtra ton haut fait. Il mérite pourtant une rémunération. La voilà. »
Gavrilo, se méprenant au rire de Tchelkash, en éprouva comme un soulagement. Il ferma sa main sur l'argent.
« Me pardonnes-tu, frère ? Dis-moi, petit frère, tu ne veux pas ? »
supplia-t-il en larmoyant.
« Petit frère !» dit Tchelkash en le contrefaisant.
Il se mit debout, il chancelait.
« Pourquoi te pardonner ? » reprit-il. « Il n'y a pas de quoi demander pardon. C'est toi aujourd'hui, demain ce sera moi. »«
Ah, frère, frère !»
répétait Gavrilo d'un air désolé en secouant la tête. Tchelkash s'était redressé. Il avait un étrange sourire. Le linge qui entourait sa tête se teignait peu à peu de rouge et ressemblait à un turban turc. Il tombait une pluie torrentielle. Une plainte sourde montait de la mer, dont les vagues, devenues furieuses, déferlaient maintenant avec violence sur la plage. Le silence se fit entre les deux hommes.
« Adieu !»
dit Tchelkash, ironique et froid. Il titubait sur ses jambes chancelantes et tenait sa tête dans la main comme s'il eût eu peur de la voir tomber.
« Frère, pardonne-moi !»
supplia Gavrilo une fois encore.
« Il n'y a pas de quoi !»
repartit durement Tchelkash, et il s'en fut, soutenant toujours sa tête de sa main gauche, tandis que de la droite, il frisait doucement sa moustache. Gavrilo demeura là, immobile, jusqu'à ce que son maître d'une nuit eût disparu, dans la pluie qui continuait à descendre des nuages, en un réseau serré, inextricable, noyant la steppe dans un brouillard épais, aux reflets gris comme l'acier. Alors Gavrilo retira sa casquette, ruisselante d'eau, il se signa, considéra l'argent qu'il tenait serré dans sa main, et poussa un profond soupir de liberté. Après quoi, il fit disparaître sa fortune sous sa blouse et s'en alla rapidement à longues enjambées et d'un pas ferme dans la direction opposée à celle que Tchelkash avait prise pour partir. La mer grondait et lançait à l'assaut de la plage sablonneuse de larges lames massives qui s'écrasaient en nappes d'écume et en embrun. La pluie cinglait la mer et la terre sans relâche. Le vent poussait sa clameur. Toute la nature exhalait un concert de plaintes, de cris et de hurlements assourdis. Les nuées désagrégées enveloppaient les flots et le firmament. L'eau du ciel et l'eau de la mer eurent au fait de laver la tache rouge qui révélait l'endroit où Tchelkash était tombé. Elles effacèrent la trace de ses pas et de ceux de Gavrilo marqués dans le sable de la plage. Et rien sur la grève déserte ne garda le souvenir du drame intime qui venait de s'y jouer entre deux hommes.